Alors, donc qu'est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu plus sur le groupe pour ceux qui n'ont pas entendu parler de vous.
Carrément, donc moi c'est Léo, guitariste de Wixo. Donc Wixo ça existe depuis fin 2017, début 2008. Donc voilà, ça fait 9 ans, on n'a jamais changé de line-up, on est toujours les mêmes connards dedans. Et voilà, c'est le groupe s'est construit petit à petit. Avec Brian, le batteur, on a commencé à bosser les premières compos durant l'été 2007. Ensuite, il y a Tristan au chant, Charles à la basse et Erwan à la guitare qui sont arrivés progressivement dans le groupe. Voilà, donc on vient du sud de la France, tout est beau, il y a du Ricard. Et voilà.
Ok, c'est un nom un peu surprenant.
Oui.
C'est venu comment? Enfin, il faut y voir une certification particulière ou...
Alors, ça n'a absolument aucun sens, hein. Je tiens à le préciser, hein. Et les Américains nous font souvent remarquer. Non, c'est juste qu'en fait, on voulait un nom de groupe qui soit simple à retenir, en un mot, qui n'existe pas, qui est assez galère, t'as vu le nombre de groupes qu'il y a en anglais, machin, et qui a une belle symétrie, on a ces deux W, tu peux faire un beau logo, tu vois, ça sonne assez bien. Et avec Brian, le batteur, on a trouvé le nom en rentrant dans le concert de créateur, tu vois. Ça fait l'anecdote métal, tu vois.
D'accord.
On était un peu bourrés, on s'est dit, allez, faut trouver un nom de groupe. Et on a trouvé ça, voilà. Donc ça n'a aucune signification.
D'accord. Finalement, là aussi pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion encore de vous écouter, comment tu définis votre style, ou, pour comprendre parfois on n'aime pas poser des étiquettes sur la musique, plutôt sur la démarche qui vous a amené à démarrer la machine.
Alors globalement, je pense qu'on peut dire tout simplement qu'on a un groupe de métal moderne, voilà, avec pas mal de touches. On emprunte au deathcore, au metalcore, au death, il y a vraiment pas mal de trucs, mais voilà, comme tu as dit toi-même, c'est toujours très compliqué de foutre dans une case un rayon flac, quoi, tu vois. Après, au niveau de la démarche artistique, vraiment, on essaye de mettre beaucoup, beaucoup d'autres influences que du métal brut, on écoute tous beaucoup d'autres choses, et essayer de mettre pas mal de passages calme, tu vois, des trucs, on n'hésite pas à mettre des instruments classiques, on a même réussi à foutre de la flûte dans notre album, tu vois, pour du métal, j'en suis assez fier. Voilà, donc on est vraiment touche à tout, et je pense que plus ça va aller, plus on sera dans cette démarche.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelques groupes qui font l'unanimité pour vous cinq?
Ouais, carrément, on aime beaucoup, par exemple, Hatefear, tu connais, on aime beaucoup Whitechapel, hein, les trucs modernes, évidemment Gojira, Deftones aussi, pour les trucs métal, et on écoute beaucoup de choses, hein. Trip-hop aussi, notamment du post-rock, des groupes comme Mono, Mugwai, Ocean Circle, par exemple, voilà.
Moi, improvisateur, maintenant.
Exactement.
D'accord. Finalement, si on regarde un peu l'histoire, finalement, pour le groupe, de ton point de vue, quoi de neuf pour vous depuis l'hippie James Hetfield Jr.?
Eh bien alors pas mal de choses vraiment, parce que donc avec l'album The Wealth of the Earth qui est sorti le 27 mai 2016 là, on a réussi quand même à concrétiser, je pense c'est l'album dont on est le plus fier, tant au niveau du son, de l'artwork, etc. Je pense qu'on vise relativement haut quand même, on a pas mal d'ambition avec ce CD, avec tous les moyens dont on s'est donné quoi. Et j'espère qu'on arrivera à aller le plus loin possible, beaucoup jouer à l'étranger, vraiment partir le plus loin possible. On pense vraiment avoir un matériau solide cette fois-ci. On n'a pas juste un petit EP ou un petit album produit dans sa cave. Là, pour nous, c'est du lourd et on en est très fiers.
Voilà. D'accord. Et moi, si on regarde entre les deux albums, c'est-à-dire le premier éponyme et le petit nouveau, il y a eu 4 ans, même si au milieu, il y a eu des hippies.
Ouais.
En termes de créativité, pour vous, 4 ans, c'est un cycle naturel ou il y a les besoins de concerts, etc., ont fait que ça a duré 4 ans. Voilà, quel est votre rythme à vous?
Ouais. Alors, ça a été, voilà, 4 ans, c'est long. Déjà, on a commencé l'album, là, on a commencé à le composer fin 2010, début 2011. On s'est retrouvé quand même avec 60 démos, donc ça commence à faire, il faut trier tout ça. Sachant qu'en plus on est très chiant, on est très minutieux et tout, et on voulait vraiment un truc parfait. Donc on n'a pas vraiment de rythme brut pour cet album, et jusqu'à présent c'était assez particulier parce que je composais beaucoup sur mon ordi, en fait, tu vois, à la maison, avec le home studio et tout. Et donc du coup c'est quand même une démarche qui demande beaucoup de temps parce qu'il faut se retrouver ensemble, ensuite bien trier chaque riff, analyser chaque passage, essayer de construire des morceaux cohérents des fois entre plusieurs démos, tu sais. Et au final, voilà, on a réussi à se retrouver avec ces 10 titres. Au bout de 4 ans, c'était très long, comme je le disais, mais on est vraiment fiers de ce que ça a donné au final.
D'accord. Justement, tu commençais un peu à l'esquisser. C'est quoi le process naturel pour vous de création d'un nouveau titre?
Alors, pour l'instant, début, je composais pas mal, on va dire, les trois quarts des morceaux tout seul, en fait. Et les autres, après, rajoutaient beaucoup de choses, beaucoup d'arrangements. Charles, le bassiste, a beaucoup d'idées d'arrangements, notamment, il écoute beaucoup de musiques différentes, il fait beaucoup de trucs sur son ordi et tout. Voilà, c'était ça. Jusque-là, c'était ça. C'était moi qui faisais les noyaux, on va dire, des morceaux. Ensuite, tous ensemble, on a arrangé le truc.
Donc, on est arrivé dans votre local de répète avec un squelette, une base, et
voilà.
Chacun se greffait dessus.
Exactement, voilà. On essayait de voir, par exemple, tu vois, on avait un morceau X, et on essayait de voir, tiens, vas-y, teste ce pattern de batterie par-dessus. On est... En fait, on avait un gros travail d'écoute plutôt que de jeu. Je pense que c'est assez particulier d'ailleurs. On parle beaucoup de ce qu'on va faire plutôt que de le faire en fait avant. Tu vois, on parle vraiment. C'est vachement important que nous pouvons avoir ce dialogue. Et en fait, au final, le travail pratique est assez court. Une fois qu'on a bien discuté de ce qu'on veut faire. Quoi.
D'accord. Donc sur un plan business, il y a eu un gros changement avec le nouvel album. Vous êtes passé de premier qui était sur Chronosphère, Cisa Mist à Life Force, qui est un label allemand.
Tout à fait.
Comment ça s'est fait et alors tu mentionnais votre ambition. Est-ce que vous pensez que maintenant, en particulier avec la Force, vous êtes mieux armé pour attaquer cette ambition?
Alors. Déjà pour répondre au début de ta question, pour comment on a trouvé Life Force, ça s'est fait assez...
Parce qu'on a un peu de cliché qu'un groupe fait son album, après arrose tous les labels d'Europe et puis voit ce qui ressort. Je sais pas si ça se passe comme ça.
Alors, nous c'était un peu particulier parce que là, on voulait bosser avec un label qui travaille vraiment au coup de cœur avec les tripes, il y en a très très peu même. C'est-à-dire qu'ils peuvent se donner les moyens de faire ça. Et donc le patron de Life Force, Stéphane, vraiment, il a vraiment accroché à ce qu'on faisait pour un groupe, je veux dire, de notre notoriété, un petit groupe du sud de la France, quoi. On n'est vraiment pas grand-chose. Et il a vraiment kiffé. Il a vraiment kiffé ce qu'on a fait. Il m'a dit, c'est bon, le mec, je vous signe. Je vous fais un contrat. Au final, c'était pas si laborieux que ça, quoi. C'est vrai que voilà, c'est quand même un label hyper respecté et qui a produit beaucoup de bonnes choses. Effectivement, j'espère que ça va nous permettre de passer l'étape au-dessus, mais déjà on l'a vu quand même au niveau du relationnel et tout ça, il nous a vachement aidé, c'était quand même lourd.
Mais à un moment vous avez eu plusieurs propositions, il fallait trouver l'équilibre ou Life Force arrivant, c'était réglé?
Non, non. Ouais, c'était réglé, direct.
Sans rentrer forcément dans les détails qui ne regardent pas, c'est un contrat d'un album ou il y a d'autres choses qui sont prévues derrière avec?
Il y a pas mal de trucs prévus. Sur cet album déjà, c'est définitif, et ensuite il y a une possibilité pour un...
Il y a une option pour
avoir pour la suite comment ça se déroule, mais on a confiance.
Et ne serait-ce que par exemple sur des aspects tournés, vous sentez une différence avec le passé? Il y a un support, il y a
alors,
sans parler de financement, parce que maintenant il y a bien du mal à financer les tournées, mais en tout cas, voilà une visibilité pour le groupe, par exemple, je sais pas, des retours que vous avez eu côté allemand.
Alors, le label en tant que tel nous a pas foncièrement aidé pour la tournée, c'était très compliqué. On a toujours été assez autonome à ce niveau-là, mais ça nous a donné une vraie visibilité. Ça, c'est le carré net. Pas forcément du côté allemand, d'ailleurs, je pense qu'on y retournera bientôt, mais ça donne quand même du poids, quoi. Quand tu dis que t'es signé chez Life Force, t'es pas le pimpin signé chez Jean-Michel Record, de rue à côté de chez toi. Ça nous a donné vraiment cet impact-là, je pense. Voilà, après, on s'est pas mal démerdé nous-mêmes jusque-là pour tourner, mais c'est vrai que ça a été plus simple.
Alors, là, on fait cette promo, et donc ça peut avoir l'air, entre guillemets, pour nos auditeurs assez nouveaux ou nos lecteurs, mais bon, d'abord, il y a plus 10 mois maintenant, ou 9 mois de sortie.
Ouais.
Voilà, avec ce recul, sur toute cette période de composition, enregistrement, etc., est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui émerge de cette période-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'arrive tout à l'esprit? Ouais.
Un événement marquant, je vais te répondre un truc assez simple, c'est le fait de se barrer en Floride. Voilà, pour enregistrer avec Marc Amos, quoi. C'est un truc de fou, je veux dire, de passer de ta campagne au fin fond des bois. Alors, j'exagère, mais voilà, c'est pas aux États-Unis, c'est quand même une expérience, je pense que ça rappellera toute notre vie.
Et ça aussi, tout ça, ça a été une démarche que vous avez fait, vous, sur vos décisions, ou il y avait déjà de Life Force dans l'histoire?
Alors, ça s'est fait avant. Ça s'est fait avant.
Parce que le label, vous connaissez le produit final.
Voilà, non, parce que ça s'est fait vraiment, à l'arrache au début. On cherchait, je ne sais pas si je peux embrayer là-dessus d'ailleurs, au niveau du producteur.
Vas-y.
Et bien voilà, tu vois. tout est naturel. Donc Mark Lewis, on cherchait vraiment un mec qui faisait un son qui nous plaisait, qui soit moderne, mais sans être foncièrement cliché. Et dès qu'on nous a dit, putain, le mec, il faut qu'on trouve un producteur, on a pensé direct à Mark Lewis, quoi. Il fait donc Will Chapel, avec le Audio Hammer Studio et Jason Sukoff. Ils ont fait Trivium, Job for a Cowboy, le dernier Cannibal Corpse. Il a fait le dernier Cannibal Corpse, c'est un truc de fou, quoi. Le son, c'est un truc de taré. Et on a eu surtout la chance qu'il accepte de bosser avec lui.
Oui, parce que vous pouvez vouloir bosser avec X, Y, Z, si vous prenez un mur, vous prenez un mur.
C'est exactement ça, et en fait, il y a quelque chose dont, personnellement, je suis très très fier, c'est d'avoir eu ces retours-là. Si tu veux, voilà, pour un groupe comme nous, on a toujours fait les choses petit à petit, et là, on a l'impression d'avoir passé quand même un gros cap, un peu à notre insu, tu vois, d'avoir un mec comme Mark Lewis qui accepte, il a accepté, comme tu dis, il a accepté de faire notre truc, il a bien aimé, quoi.
Et là aussi, c'est, enfin, de toute façon, complètement basique, c'est vous envoyez des démos au mec et puis vous voyez, ça, vous attendez une réponse.
Et tu vois, foncièrement, pour Mark Lewis, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, allez, on va tenter, les mecs. On va tenter, on va lui écrire, on va se sûr de se prendre un tarot dans la gueule et qu'il va nous envoyer chier. Non, non, il nous a dit, les mecs, je kiffe ce que vous faites, quoi. Et en plus, il nous a produit dans des conditions de fou par rapport à d'autres groupes, quoi. Sans rentrer dans les détails,
vraiment des gros avantages.
C'était assez inespéré.
Alors, ce que je suis un peu surpris, c'est si j'ai lu et bien lu.
Ouais.
En fait, vous n'avez enregistré là-bas que la batterie. Le reste a été fait en France. Ce choix ?
Ouais, alors pour des raisons surtout logistiques, en fait, c'était assez compliqué de partir tous aux États-Unis. C'était long. En fait, ça aurait été surtout inutile que tout le monde vienne, sachant qu'on va faire toutes les batteries. Voilà, ça aurait été du temps un peu perdu, tu vois. Donc, on s'est barré une dizaine de jours avec Brian, le batteur, et on a fait toutes les prises là-bas, donc avec aussi Jason Sukoff qui nous a carrément aidé. En plus, c'est un mec super. Enfin, et j'insiste sur ça, mais tu vois, c'était vraiment pour nous, c'est un rêve de gamin, quoi. C'était des mecs, on a écouté la musique, on était ados, quoi. Voilà, et donc ensuite, Mark Lewis est venu. On est parti aux États-Unis en novembre, et octobre novembre, et Mark Lewis est venu début février ensuite, 2016, au Kiko, un studio qui est à Frontignan, un pote à nous à Frontignan, Hall, qui bosse là-bas, et on a fait toutes les grattes, le chant et tout, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, le voir le gros requin débarquer dans la campagne française, c'était pas mal, tu vois. Donc c'était un processus assez long, effectivement, mais ça s'est super bien déroulé, en fait.
Mais vous avez votre justification, entre guillemets, votre besoin d'aller enregistrer les batteries, en particulier là-bas, c'était de bosser avec Sukoff ?
Ah non, pas du tout, c'est juste qu'en fait, là-bas, le parc batterie, c'est un truc de fou, quoi. Les conditions d'enregistrement.
Vous alliez avoir pour soigner la batterie, il fallait vous aller
là-bas. Il fallait aller là-bas. C'était, on a enregistré dans une espèce de room énorme, quoi. Il y avait le drum tech qui testait tout, les pots, on a fait plein de tests, c'était très très long. C'était assez laborieux, mais ça s'est super bien passé. Et il y avait vraiment besoin d'aller
là-bas. Surtout, il faut que. Enfin, vous, donc toi, les batteurs, vous soyez ultra calés sur.
C'était
pas le moment de faire de la jam et
c'est
calé le truc, quoi.
Voilà, c'était comme on a bossé donc, avec Mark Lewis et Jason là-bas. Au début, c'était pas forcément prévu d'ailleurs de bosser avec Jason, mais ils se sont relayés, quoi. Et en plus, donc, on arrivait avec nos morceaux bien carrés, on avait vraiment finolé le truc, mais vraiment à fond, quoi. Il nous a donné pas mal d'idées sur le moment et Jason, il est assez. Assez instinctif, quoi. Il va nous dire un truc, fais ça la batterie maintenant. Il nous a fait ralentir des tempos de certains morceaux.
Pour toi, après, on va l'assumer, tu es aussi une tête créatrice. Prends l'instinct et dire, bon, je modifie mon truc, et après, enfin, je l'assume aussi en rentrant
complètement,
en rythmique de guitare.
Bien sûr, mais si tu veux, après, on a tous on a pris le parti que tu te retrouves avec des mecs comme ça, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'étais parti dans le truc, ils disent un truc, tu fermes ta gueule, parce que ça va être forcément mieux. Et au final, c'est ce qui s'est passé. C'est des mecs, ils ont tellement de recul, ils ont tellement de culture de cette musique-là, qu'ils sont hyper ouverts d'esprit, ils ont beaucoup vraiment de hauteur, tu vois, ils ont un regard très objectif par rapport à ce qu'on fait, de pas nous enfermer dans des trucs que tout le monde fait, tu vois, tout ça. Et donc voilà, c'était vraiment une expérience.
D'accord, et donc après, tu disais donc au Chicken Cop Studio avec Mark Lewis. C'était difficile, assez difficile à. Et tu viens d'un peu d'en parler, mais c'est quoi sa valeur ajoutée que tu peux. Enfin, mesurable, entre guillemets, oui. En tout cas, à quel point le disque aurait été différent sans lui, ou avec un par rapport au passé.
Sa valeur ajoutée, c'est qu'il mange beaucoup de poulet.
Mais. C'était pas sûr, alors.
C'est clair. Non, mais c'est que c'est un mec. Déjà, qui a un vrai regard. Artistique, c'est un bon guitariste, d'ailleurs, et pour nous c'est très important, et c'est quelque chose qu'on dit à chaque fois et qui est vraiment nous a changé notre regard d'aborder la gratte, quoi. On joue plus pareil depuis que c'était vraiment des fois. Il a une oreille, Mark Lewis, c'est un truc de fou, sur les fréquences, au niveau de l'accordage, des fois on passait des heures à chercher la bonne tension de corde pour que ça sonne comme il voulait. Et des fois, à 2h du mat, il était là, comme un dieu, give me more, et tout. Il était à fond, quoi. Il fallait vraiment que ça soit au poil de cul. Et c'était, enfin voilà, le mec, on a pris 10 ans d'expérience dans la gueule, quoi.
D'accord. Et donc, c'est aussi une. C'est peut-être pas ce quoi, ça fait l'avenir, mais c'est le genre de formule que vous souhaiteriez retenter pour le futur, vous savez pas trop.
Pourquoi pas, non. Non, franchement, c'est pas trop. On se ferme pas aussi l'option peut-être de faire la suite un peu nous-mêmes, parce que donc Tristan Chanteur, avec ce qu'on avait Tristan Chanteur qui a produit notre EP, James Houston, là, qui se retrouve en partie sur l'album. On aimait beaucoup le son qu'il nous avait fait. Mais on sait pas, peut-être qu'on refera ça. Je pense qu'on aime bien changer quand même. On aime bien changer. Pourquoi pas rebosser avec Marc? C'est vrai que c'était un truc de fou, mais je pense que ça porte à chaque fois une touche un peu différente. Je pense que c'est plutôt bien que c'est dans des habitudes. Mais on verra, on a aucune idée fixe.
Finalement, depuis 2007, même oui. Votre son, votre démarche artistique a pas mal changé. Comment tu. C'est inconscient, ça a été un moment où vous avez intégré pas mal votre musique en discutant beaucoup. Il y a un moment où vous dites, on va passer plus dans ce côté-là. Enfin, comment vous gérez vos. C'est juste la créativité qui part, comment ça se passe?
Alors, ça c'est intéressant, c'est un des trucs, on en parle souvent entre nous. C'est. Au début, on est parti, si tu veux. On s'était juste dit, on veut enregistrer du métal. C'est pas dit un truc en particulier. On faisait nos machins et tout. Et plus le temps passe, plus on écoute de choses différentes. Et progressivement, en fait, on arrive à foutre des touches comme ça qui arrivent. Et ce qui est bien, c'est qu'on écoute tous des trucs assez différents. On a toujours cette unité-là. On est globalement assez d'accord sur les directions à prendre. Donc là, dans l'album, dans The Wrath of the Earth, le truc, c'était d'arriver à faire du métal qui soit pas tout le temps à 200%, arriver à faire des grosses accalmies, tu vois, des passages planants, mais que ça reste quand même, que ça poutre quand même, tu vois, rester là-dedans. On n'a pas d'idée à la base fixe, vraiment, on se laisse vachement influencer par toutes les musiques qui nous entourent, et on, comme je te disais, on en discute beaucoup, c'est vraiment un truc qui se fait naturellement, et on n'a pas d'idée fixe, on s'est pas dit, on va composer ça, comme si...
D'accord. Alors, comme tu mentionnais de l'équipe précédente, vous avez réenregistré Natoma et White Team.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que c'est important pour vous, en particulier, de donner une deuxième chance, une nouvelle vie à ces deux titres en particulier?
Alors, c'est la première fois qu'on pose la question, c'est pas mal. En fait, ce qu'on voulait, c'est que ces titres étaient sur l'EP et on les aimait vraiment. Et on voulait qu'il y ait la prod de Mark Lewis dessus. Donc voilà, c'était vraiment la deuxième chance. Et pour nous, il s'inscrivait vraiment, tant au niveau des thèmes que des riffs, quoi. Il s'inscrivait vraiment dans cet album. Et on trouvait qu'il passait nickel.
Donc c'est deux interprétations ou deux visions d'une...
Exactement.
Tu le mentionnais, vous avez travaillé en particulier l'aspect visuel.
Ouais.
Autant vous aviez avant des visuels voilà, très simples, vous travaillez autour du logo. Là, c'est un peu énigmatique comme logo. C'est un peu alors déjà, comment c'est venu et comment qui s'en est chargé et comment vous travaillez avec la personne?
Alors, donc celui qui a rédigé la pochette de The Wrath of the Earth, c'est Hugo Cavallès, qui a son studio Cardinal, qui s'appelle, et donc qui est au Canada. C'est un pote à nous, c'était Montpellier. Excellent graphiste. Et en fait, ce qu'on voulait faire, on a mis du temps à réfléchir là-dessus. Ce qu'on voulait faire, c'est un truc déjà qui soit pas du tout métal. On voulait pas avoir des cadavres et des tripes sur notre pochette, c'était vraiment pas l'idée. Et de faire un truc voilà, qui soit au final, comme tu dis, assez énigmatique. Donc on a ce truc qui est tout fait en crayonné, hein. S'il n'y a rien à l'ordi, c'est tout fait en crayonné. Et franchement, j'aurais le tableau chez moi, ça pèterait quoi. C'est vraiment très beau. Et donc on a voulu faire en fait ce sous-marin, c'est un sous-marin qui est au milieu de voilà, qui fait écho à une des chansons de Seb Vignier. C'est voilà, qui est en deux parties.
On y reviendra.
Et voilà, donc en fait, ce qu'on a voulu faire. Une pochette simple, mais qui soit quand même assez forte, que les gens justement ils se posent la question, qu'est-ce que ce sous-marin fout au milieu de ce graphisme? On aime beaucoup, après voilà, toujours le trip montagne, paysage et tout, et on trouvait que ça collait bien et que ça fait pas du tout métal pour le coup.
D'accord. Comme tu disais, tu mentionnais deux titres dont je ne me permettrais pas de prononcer
les principes
en russe.
Respire.
Donc ça veut dire a priori oblitération ou destruction?
Alors c'est tout simplement l'oubli en fait. Là, c'est Zap Vignet tout simplement.
Pourquoi le choix du russe?
Alors en fait, parce qu'en fait, on parle d'une histoire qui s'est passée en Russie. C'est l'histoire de mecs dans des sous-marins qui s'est vraiment passé, hein, qui ont coulé dans le port du Murmansk. Et dans des conditions un petit peu particulières, on a retrouvé les messages du commandant de bord.
Un joueur le cours.
Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Et c'est tout à fait ça. Et voilà, on s'est dit, allez, on va foutre du russe, ça fait un petit peu exotique.
D'accord.
Et ça collait bien au niveau de l'ambiance, le froid russe et tout, là, tu vois, c'est bien métal, ça, c'est bien.
rapidement après la sortie de l'album, vous avez sorti un clip.
Ouais.
Pour XYY.
Ouais, XYY.
XYY. Donc c'est un clip où vous êtes mis en scène, on voit le groupe jouer.
Ouais.
Il y a toujours, enfin pour les différentes interviews que je peux faire, il y a toujours deux approches sur les clips.
Ouais.
Les mecs le disent, bon, c'est un mal nécessaire parce que ça permet de la promo, mais c'est un peu l'horreur à faire parce que tu refais 150 fois les mêmes trucs. Donc voilà, là ce qui prédomine, c'est le plaisir ou la galère que c'était?
Alors, un petit peu les deux. Au début, on s'est dit, voilà, comme tu disais, le clip est fort d'avoir. Et le truc, c'est qu'un clip, ça coûte cher, c'est compliqué à réaliser.
Voilà. Et c'est une demande de Life Force ou non?
Il fallait avoir un truc quand même, c'était mieux, pour la visibilité, c'est quand même vachement mieux. Et après, le clip qu'on a, j'en suis assez content parce que ça, on voulait un truc simple, voilà, qui soit pas. Je trouve que c'est cheap quand t'as des groupes qui commencent à faire des trucs avec un mec à capuche et qui marche dans la forêt, tu vois. C'est vraiment pas le truc. Et là, du coup, c'est Tristan, le chanteur, qui s'occupait, il a tout réalisé, donc on a tout fait en interne.
D'accord.
Voilà, donc c'est une chance, dans le groupe, on arrive tous à avoir des compétences pas trop dégueu pour apporter la patte. Voilà, donc on a filmé ça dans un théâtre, c'était assez classe. On a pu louer ce théâtre une journée, on a essayé de beaucoup bosser les éclairages.
C'est une journée?
Voilà,
une journée
on s'est tout ça sur une journée, et après, voilà, on a bossé, Tristan a tout fait lui-même, quoi. On s'est tout démerdé nous-mêmes.
J'ai une dernière petite question, puis après un petit quiz que je fais pour toutes mes. C'est tes goûts, hein, donc tu pas te planter. Qu'est-ce que tu connais en général sur la scène métal montpellierenne? C'est plutôt ça collabore ou ça se tire la bourre ou...
Alors la scène métal montpellierenne.
Il y en a une, je sais.
Alors oui, il y en a une. Donc il y a notamment il y a un groupe qui s'appelle des grands potes à nous, qui s'appelle New Haven Structure, mais qui sont pas que à Montpellier, avec qui on est parti en tournée en 2013 et qui commencent à être assez connus, qui ont un album qui vont sortir qui s'appelle La Partition. Ensuite, métal, il y a un groupe qui s'appelle Gravity, qu'on connaît bien. Ensuite, en métal pur, j'avoue qu'on reste assez distant. Parce que, tu sais, dans les petits microcosmes, un petit peu, ça a tendance à beaucoup se cracher sur la gueule. Et nous, on reste un petit peu hors de ça. On fait notre truc à côté. Après, en bon groupe, ils sont moins métal, mais du coup, stoner et tout. Il y a les excellents Mudvisor, je sais pas si tu connais. C'est avec le chanteur de Froid et Chrono. Et donc, le bassiste et le guitariste sont à Montpellier. Voilà, c'est les groupes principaux, qui a Montpellier. Après, je te dis, on reste un peu en dehors du truc, quoi.
Là aussi, avant de finir, quelles sont les prochaines étapes pour vous, pour le groupe?
Tourner tout le temps. Voilà, jouer vraiment. Je pense que vraiment, avec cet album, on veut le défendre le plus longtemps possible. Vraiment le plus longtemps possible. Parce qu'on est vraiment très fiers. Vraiment.
Vous avez déjà des prémices suivants ou d'un ici, ou de...
Alors, pour la suite, on est en train d'en parler. Pour commencer, déjà, on voudrait changer de méthode de boulot. Vraiment plus bosser ensemble. Tu vois, au lieu de rester que je reste dans mon
ordre. Collectif.
Exactement, que ce soit plus organique. Plus accessible au niveau des riffs, ça sonne beaucoup plus humain. Quoi. Tu vois, un truc, on se met tous dans une pièce et qu'on avance comme ça. On a quelques petites bribes, mais on va essayer surtout d'avancer ça cet été.
Voilà. Et donc voilà 2-3 questions pour connaître tes goûts. Chanson préférée de tous les temps?
Chanson préférée de tous les temps, putain, c'est les questions galères.
C'est chaud, ouais.
Je vais te dire Minerva de Deftones.
D'accord. Premier album rock,
Offspring. Americana.
Et le dernier?
Oh putain, le dernier Whitechapel.
D'accord.
Non, j'ai oublié le nom.
Je vais vous appeler, donc on voit. L'étincelle t'a donné envie de te mettre à la guitare? C'est un truc qui...
Alors, ça va être un peu particulier, parce que du coup, j'avais pas spécialement un truc. C'est tout simplement mon père qui a jamais eu la chance de pouvoir faire un groupe. Et depuis que je suis tout gamin, il m'a poussé à faire la gratte, et j'ai toujours eu envie de faire. Et il m'a poussé, il m'a dit, putain, fais ce que j'ai pas réussi à faire. C'est le passage de la force, quoi. Et du coup, j'ai toujours cette image-là. Je me suis dit, putain, j'ai la chance de faire un truc. Et tout gamin, je me suis dit, allez, en avant.
Chanson que tu aimes le moins de votre discographie?
Chanson que j'aime le moins de notre discographie? Alors, c'est, je pense que ça va être un morceau du premier album, donc qui est sorti en 2012. Et qui
s'appelle Wixo.
Ouais, qui s'appelait Wixo, éponyme, et qui s'appelle Little Snake. Voilà.
Imagine pour le prochain album, t'as le choix d'un invité mort ou vivant.
Un invité mort ou vivant?
Ouais.
Michael Jackson.
D'accord. Et dernière chose, vous avez, imagine t'as la possibilité de te donner un concert n'importe où dans le monde. Tu vas voir. Il y a un lieu qui te.
Red Rocks. Notamment il y a Incubus. Qui ont fait un putain de live là-bas et c'est absolument fabuleux. C'est le Grand Canyon, quoi.
Ouais, bah c'est ça, ça c'est d'avoir un environnement plus magique.
Ouais, j'ai vraiment vu ce live et je t'avoue que ça m'a scotché. Un jour, Wixo et Red Rocks, j'y crois.
D'accord, merci à toi.
Merci beaucoup, mec.
Je t'en prie, c'est cool.